L'agenda des foires calédoniennes totalement chamboulé. Bourail n'aura pas lieu. Koumac se consolera avec la fête de la génisse et Pointe-Bout maintient malgré l'incendie qui a touché le champ de foire. Jean-Noël Barrot au chevet des Français au Liban. Deux de nos compatriotes sont morts dans des bombardements israéliens. Le ministre des Affaires étrangères vient discuter avec les autorités locales. Gérald Darmanin veut incarner le bloc central face aux extrêmes. Il lance son mouvement populaire, c'est son nom. Il le présente comme un nouveau lieu de réflexion pour penser l'avenir. Des croisiéristes australiens mécontents, Carnival a annulé sa venue en Nouvelle-Calédonie pour la croisière qui devait passer par le territoire début novembre. En cause, les troubles qui persistent. Un changement de programme qui passe mal, nous dira Jean-Pierre Zajac. Semaine bleue, octobre rose, large palette de reportages dans ce journal. On dépeindra d'abord l'ambiance dans un atelier de sophrologie dans un CCAS et on brossera le tableau des courses en faveur de la Ligue contre le cancer avec tout d'abord la Nouméenne. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres, un coup d'œil au Mag des Sports puisque vous le savez, le lundi, c'est l'actu sport qui arrive après le journal. L'occasion de parler entre autres de football avec Marseille qui craque à Strasbourg, Michael Jeuneski.
L'OM rate une occasion de suivre la cadence de Paris et Monaco pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. N'en déplaise à Rabiot pour sa première avec les Marseillais. Les Strasbourgeois ont forcé l'OM à concéder sa première défaite de la saison ce matin sur le score de 1-0.
Et puis on parlera également de rugby avec l'UBB qui fait tomber Toulouse.
L'Union Bordeaux-Bègles prend sa revanche et la tête du championnat de France, l'UBB de Yoram Moefana et Sélipilé Falatea, malheureuse finaliste de la dernière finale du top 14, l'a emporté face à Niti Mauvaka et l'Armada de Toulouse, 16-12. La suite promet une nouvelle lutte acharnée pour le bouclier de Brennus.
Et puis nous évoquerons aussi l'actualité du cyclisme en Nouvelle-Calédonie.
La reprise des compétitions approche avec le championnat de la province sud de cyclisme sur piste. Ce sera dès le week-end de prochain. Le peloton calédonien reste formé pour porter de nombreux projets afin de faire avancer la discipline. Nous recevrons Christophe Chevillier et Stéphane Coulon, vice-président et membre du comité régional de cyclisme, ainsi que David Chavitz, également président du comité de la province sud de cyclisme et organisateur donc de ce prochain rendez-vous annoncé au Vélodrome de Magenta.
L'actualité politique à la une le lundi, vous le savez, c'est la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que l'on retrouve tout de suite.
Montrer sa force pour ne pas avoir besoin de s'en servir. Ce principe dont le maréchal Lyoté avait fait sa devise est vieux comme le monde et il a été mis en œuvre avec efficacité ce 24 septembre. Malgré les annonces, les rumeurs, les menaces et tout ce qui circulait sur les réseaux sociaux, la présence et la mobilisation massive des forces de sécurité intérieure auront dissuadé toute velléité de désordre, de violence et d'agitation. Le 171e anniversaire du rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France a été célébré tranquillement, discrètement et sans débordement. Il y a bien eu la déclaration unilatérale de souveraineté des chefferies faite à Marais par le président du Conseil des chefs. Mais on a compris qu'il s'agit d'une revendication interne au monde kanak qui veut gérer directement ses affaires coutumières. Et ses conséquences seront aussi en interne. C'est la traduction et l'illustration d'une lutte d'influence qui s'exprime désormais au grand jour avec le Sénat coutumier. Le 24 septembre n'a pas été le 13 mai, mais l'on espère ne pas vivre régulièrement sous la férule de ces prédictions anxiogènes et récurrentes qui viennent inutilement inquiéter une population qui n'en a pas vraiment besoin. Il reste la situation à Saint-Louis, c'est le point de blocage, c'est l'élément qui interdit que, plus de 4 mois après le début des violences insurrectionnelles, on puisse parler d'un retour à la normale. C'est un point de blocage très réel, puisqu'il coupe le sud de la Calédonie du reste du territoire et qu'il prend en otage des milliers de personnes. C'est un point de blocage symbolique, parce que le problème de Saint-Louis perdure depuis 40 ans. C'est un point de blocage déterminant, parce que la tribu de Saint-Louis est le cœur névralgique de la CCAT. Et c'est là que se concentrent depuis plusieurs semaines les efforts de l'État, qui a mis en place un double verrou aux deux accès de la tribu, et qui a lancé plusieurs appels à la reddition des insurgés recherchés. Tout le monde sent que l'on en est arrivé à un moment décisif, parce qu'il devient impératif de rouvrir cette route, mais que cela ne peut être fait que lorsque la sécurité sera assurée. C'est ce qui justifie toutes les outrances, toute la désinformation et tous les commentaires diffamatoires et injurieux que l'on trouve ces derniers temps sous la plume d'une partie du FLNKS ou dans les propos de députés LFI auxquels a répondu fermement le nouveau ministre de l'Intérieur. C'est à Saint-Louis que tout se joue. C'est un test pour la détermination de l'État. et c'est pour cela qu'il doit tenir. Le rétablissement de l'ordre public est incontestablement la première des priorités pour mettre un terme à la violence qui s'est déchaînée le 13 mai. Mais immédiatement après, il y a la reconstruction de l'économie. Et le chantier est énorme. À tel point que la Calédonie a sorti deux plans de son chapeau. Un plan proposé par le gouvernement et un plan proposé par le Congrès. Deux plans complémentaires mais pour autant concurrents qui n'échappent pas, bien sûr, aux arrière-pensées électoralistes. Mais il ne faut pas se leurrer. Ce qui est fondamental dans ce domaine, c'est le plan de l'État. C'est clairement lui qui tient les cordons de la bourse et c'est lui qui financera les solutions, quelles qu'elles soient, n'en déplaise à ceux qui se glorifient d'avoir imaginé unilatéralement des dispositifs qui se veulent décisifs. Un État désormais omniprésent et quasi omnipotent en Calédonie, ce n'est sans doute pas le résultat qu'avaient envisagé les stratèges et les commanditaires de la CCAT qui finalement auront eu tort de se servir de leurs forces.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que vous pourrez retrouver sur notre antenne à 16h cet après-midi sur Radio Rythme Bleu ou alors quand vous le souhaitez sur notre site internet rrb.nc. L'actualité politique marquée également par ce communiqué du bureau politique du FLNKS signé d'Aloisio Sacco au nom de l'animation du BP. Il fait suite à une rencontre samedi avec certains responsables de l'État au Haut-Commissariat concernant la situation de Saint-Louis, Michael Juneski.
Ce communiqué au style outrancier évoque, et je cite, « l'ultimatum posé par l'État à la jeunesse, aux coutumiers et à la population pour une intervention armée ce lundi 30 septembre à Saint-Louis » et il ajoute que cet ultimatum pourrait compromettre toutes les démarches entreprises pour la désescalade. Le FLNKS demande à l'État de laisser le temps aux coutumiers de continuer le travail de médiation avec les jeunes et il exige son impartialité dans l'enquête en cours pour que toute la lumière soit faite sur la mort des jeunes qui ont été tués lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre.
L'actualité en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi cette sécheresse intense dans le Nord. Un tel niveau de déficit hydrique ne se produit que tous les 40 ans à cette saison. C'est le constat de Météo France Nouvelle-Calédonie. Le monde agricole évidemment subit de plein fouet ces conditions avec une pluviométrie largement insuffisante. Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, nous a décrit cette situation très difficile ce matin alors qu'il était notre invité à 7h30.
Une sécheresse très très importante, un déficit de pluviométrie majeur durant les mois derniers et qui se cumule et donc toujours pas de pluie à l'horizon avec donc des problématiques qui sont évidentes, hein, c'est-à-dire des animaux qui souffrent, manque de pâturage, et puis, vous le savez, de nombreux feux de brousse qui détruisent la nature, qui ont un lourd bilan pour l'environnement, mais aussi pour les propriétés, puisque certains élevages sont complètement ravagés par le feu, notamment dans le Grand Nord, avec des propriétés qui n'ont aujourd'hui plus un seul hectare de pâturage pour leur bétail.
La Niña et ses pluies donc sont annoncées pour novembre. Ce serait une bonne nouvelle pour Jean-Christophe Niotou, mais qui reste toutefois prudent.
J'ai envie de parler au conditionnel. Heureusement, la Niña devrait arriver puisqu'on nous l'annonce depuis pas mal de temps maintenant. Et puis, chaque mois, c'est repoussé. La pluie, lorsqu'elle arrivera, sera extrêmement bénéfique pour l'ensemble de la brousse, pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, hein, de toute façon. C'est le secteur agricole qui est touché, mais c'est aussi les populations. On voit dans de nombreuses communes actuellement des restrictions sur les utilisations de l'eau et puis des captages qui sont au plus bas historiquement. Et ça nous amène vraiment à ce sujet, comment est-ce qu'on peut demain, enfin, investir massivement sur la gestion de l'eau sur ce territoire, avec des ressources importantes qui partent à la mer lorsque c'est la saison des pluies, et puis en saison sèche, on a plus d'eau. Et je crois qu'il y a là, dans le cadre de la relance du territoire, l'on espère dans les mois et années à venir, un vrai sujet sur la ressource en eau et des investissements majeurs sur de grandes retenues qui pourraient exister un peu partout. On parle de ce fameux barrage de Pointe-Boute. Hein. Peut-être qu'on devrait enfin mettre les moyens pour ce type de projet, parce qu'il s'agit de l'eau, il s'agit donc de la vie.
Jean-Christophe Niotou qui travaille notamment avec le président des chambres d'agriculture France sur ces sujets, ainsi qu'avec les chambres consulaires du Pacifique. Jean-Christophe Niotou, le président de la chambre d'agriculture et de la pêche, qui était notre invité ce matin à 7h30. Il nous a fait part également de ces chamboulements pour les foires calédoniennes cette année. Ce n'est un secret pour personne. Depuis le 13 mai, les événements culturels ont du mal à être organisés. C'est le cas aussi de ces fameuses grandes foires. En conséquence, eh bien, certaines sont annulées quand d'autres sont maintenues, Léana Colombo.
Et oui, difficile de parler des événements festifs phares en Calédonie sans sans évoquer les différentes foires du territoire. Celle de Bouraï est celle qui attire le plus de monde. Rien que l'année dernière, 28 000 Calédoniens avaient fait le déplacement. La décision d'annuler aura donc été d'autant plus difficile à acter. Un temps pensé pour être reporté à novembre, nous ne retrouverons la foire de Bouraï qu'en 2025. Son président, Livaï Roy, exprime sa déception de voir la foire annulée pour la première fois de son histoire en 47 ans d'existence.
Elle avait traversé 84, enfin les événements. Aujourd'hui, elle avait aussi traversé le Covid. Donc elle était passée un petit peu entre les gouttes. Ben, cette année, on a pris cette décision responsable de l'annuler.
Qu'est-ce qui a orienté ce choix? Est-ce que c'est plus économique, sécuritaire?
Économique, évidemment. Ben, aujourd'hui, on voit très bien 70% des entreprises subissent une fermeture ou une baisse de chiffre d'affaires. Beaucoup ont perdu leur travail. C'est assez compliqué. Ensuite, il y a la sécurité. Enfin, nous, aujourd'hui, une foire de Bouraï, c'est un budget conséquent. Si demain, on la faisait à Bouraï, il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe à Saint-Louis ou autre sur le pays, qu'on se retrouve avec une petite fréquentation, enfin une moindre fréquentation. Et derrière ça, nous, on est quand même garant de la sécurité de notre public et aussi de la réussite de ces foires, quoi.
Le comité de foire de Bouraï cherche tout de même à organiser un événement pour cette fin d'année qui regrouperait plusieurs communes. Du côté de Coumac, si la décision a été prise d'annuler la foire communale, une fête de la génisse sera bien organisée le 2 novembre, alors qu'elle était initialement prévue le 18 mai. Une organisation plus simple, mais qui ne signifie pas qu'elle a été négligée, évoque Christophe Chiara, président du comité de foire de Coumac.
C'est deux manifestations qui n'ont pas rien à voir l'une dans l'autre, mais voilà. Techniquement, la foire, c'est un gros barnum à gérer. C'est 3 jours de foire, et c'est plus facile à annuler, parce que c'est très compliqué à faire. La génisse, c'est une journée, ça sera le 2 novembre à Coumac, et c'est beaucoup plus simple. Il y a des agriculteurs qui avaient préparé notamment des poules ou d'autres animaux pour pouvoir les vendre pour la foire de Coumac au mois de septembre, mais voilà, ils se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau, j'ai envie de dire, comme ça. Ils nous ont dit, bon, on ne peut pas faire quelque chose. Donc, vu comme ils étaient un peu, vous voyez, un peu leur désarroi parce qu'ils ont investi quand même dans des animaux, ils ont de la nourriture. Donc on s'est dit, allez, on fait la fête de la génisse. Comme ça, ça va montrer un peu à tout le monde voilà, qu'on peut quand même faire des trucs bien dans le Nord.
À la demande des élus et des administrés, la fête agricole de Pointe-Boute sera bien maintenue ce 12 octobre et ce, malgré un incendie qui a touché le champ de foire, explique Yann Peraldi, le maire de Pointe-Boute.
Les dégâts sont assez superficiels dans la mesure où le site de la fête agricole avait déjà été entretenu et girobroyé. À la fête de Pointe-Boute, on y tient. Hein. Il s'agit de la 10e édition et pour essayer de maintenir une certaine normalité hein, dans les événements de la commune, on a tenu à maintenir cette festivité. On a eu de ci de là des demandes à ce que ce soit maintenu et puis les inscriptions aux différents stands et les participants nous laissent augurer qu'une édition assez exceptionnelle. On a réuni la commission de sécurité la semaine dernière pour évoquer les différents points relatifs à la sécurité du site et au déroulement de la fête agricole et je pense que tout devrait aller normalement.
Près de 4000 Calédoniens sont attendus lors de cette 10e fête agricole de Pointe-Boute et autre foire maintenue, la foire du Pacifique à Nouméa, qui se déroulera du vendredi 4 au dimanche 6 octobre, soit à la fin de cette semaine. Plus de 250 exposants seront présents place de la Moselle.
Et avant de refermer cette page, place au dernier rapport de la Chambre territoriale des comptes, l'instance qui met en avant la difficulté de la SIC, la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie. La Chambre qui a passé au crible fin les exercices de la SIC de 2018 jusqu'au second semestre 2023, évidemment avant les émeutes de mai, Mickaël Juneski.
Oui, il en ressort que pour la gestion de quelques 109 000 logements, le patrimoine immobilier est jugé globalement de qualité moyenne. Des résidences présentent des défauts importants, l'accessibilité reste compliquée, près de la moitié du parc nécessite donc des travaux. La Chambre invite la société à réaliser notamment des chantiers de repérage de l'amiante. Par ailleurs, les impayés sont en hausse et au 31 juillet 2023, le taux moyen de vacance des logements est aussi en augmentation de 14,03% par rapport à 2022. Des stratégies sont toutefois élaborées par la SIC, reconnaît la Chambre, pour faire face à ces problèmes. La CTC alerte également la SIC sur la gestion des données informatiques avec une protection à consolider. La Chambre admet que la gestion des ressources humaines à la SIC est structurée et dynamique. Elle invite toutefois la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie à poursuivre et renforcer les actions d'ores et déjà engagées en matière d'absentéisme de ses employés. Enfin, et c'est le point noir, la situation financière de la SIC est fragile avec un recul du chiffre d'affaires de 1,47%. Les éléments prévisionnels débattus au conseil d'administration de cet établissement public laissent présager une situation financière critique. En effet, La Chambre estime qu'ils prennent en compte des hypothèses très optimistes, notamment en matière de réduction du taux de vacance, de diminution des impayés de cession du patrimoine ou de niveau de subventions attendues de la part des collectivités. Dans ces conditions, la SIC doit toujours, selon la Chambre territoriale des comptes, poursuivre ses efforts en matière de réduction des charges et de recherche de solutions de financement, notamment auprès des partenaires institutionnels, voire de recapitalisation par ses actionnaires afin de redresser sa situation financière. En tout cas, à l'issue de son contrôle des comptes et de la gestion, la Chambre formule 5 recommandations principales. La SIC devrait présenter annuellement au Conseil d'administration un bilan des financements dégagés et des mesures mises en œuvre pour réhabiliter le patrimoine et réduire la vacance locative, renforcer le rôle des agences de proximité pour anticiper les risques d'impayés, mettre en place un schéma directeur du système d'information associé à un plan pluriannuel d'investissement des dépenses informatiques, valider en conseil d'administration toujours la politique de sécurité des systèmes et nommer un responsable de la sécurité des systèmes d'information et enfin rationaliser les dispositifs de primes et d'avantages sociaux.
Merci Mickaël Juneski. Il est 11h passé de 47 minutes. On marque une pause publicitaire avant de voir l'actualité à l'étranger et en métropole. Le ministre des Affaires étrangères est d'ailleurs parti en urgence au Liban. Une situation dans la région qui inquiète en métropole. On voit ça juste après la pub.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et toi, tu sais comment on reconnaît le goût d'un bon café en Calédonie ?
Ça commence par... Après, ça fait... Ensuite, ça fait... Et là...
Tu connais ?
Eh oui, c'est la boîte Nescafé. Un café au goût unique, riche et intense. La boîte Nescafé, le vrai goût calédonien.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
Et alors que le conflit au Proche-Orient s'intensifie, je le disais, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français est donc arrivé au Liban, Léo Fichou. Et
oui, Jean-Noël Barrot est arrivé à Beyrouth dans la nuit où la France s'est engagée dans la protection des civils. Le ministre a remis une aide sanitaire d'urgence à son homologue libanais de la santé. Environ 12 tonnes de matériel médical ont été acheminées par l'état-major des armées et serviront à soigner 1000 blessés graves. Jean-Noël Barrot a ensuite participé à une réunion de travail sur la situation des ressortissants français. Je rappelle que l'armée israélienne poursuit ses frappes contre le Hezbollah au Liban, deux jours après avoir tué le chef du mouvement pro-iranien Hassan Nasrallah. Téhéran a promis que son assassinat entraînerait, je cite, la destruction d'Israël. Le Liban, la Syrie et l'Iran ont d'ailleurs décrété plusieurs jours de deuil national. L'État hébreu mène de son côté des raids contre les rebelles houthis au Yémen.
Et dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est particulièrement vigilant. Le mois d'octobre peut être très dangereux, selon lui. C'est ce qu'il a déclaré, en tout cas, dans un entretien sur LCI autour de sa politique, mais aussi de tous les sujets d'actualité.
On a une pression terroriste qui est extrêmement puissante, venant de l'islamisme, mais vous l'avez dit vous-même. On aborde un mois d'octobre qui va être dangereux. Le 7 octobre, c'est l'anniversaire du pogrom, notamment en Israël, et avec tout ce qu'il peut y avoir de retentissement, puisqu'il y a eu donc la mort de M. Nasrallah au Liban donc, cette semaine. C'est aussi le mois d'octobre, un grand mois pour des fêtes juives. J'ai demandé donc à nos préfets de redoubler de vigilance, de signaler aussi des manifestations qui pourraient être dangereuses, pas pour les interdire forcément, mais si jamais elles pouvaient présenter des troubles très graves à l'ordre public, il y a bien sûr l'interdiction, mais surtout de travailler avec l'autorité judiciaire pour que tout dérapage soit signalé, pour que tous les propos qui sont des propos condamnables puissent être condamnés sur la base de l'article 40.
Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui évoquait les sujets de l'immigration ou encore de la sécurité, alors que le Premier ministre, lui, devrait axer sa déclaration de politique générale dans la nuit de mardi à mercredi pour nous, essentiellement sur les questions budgétaires, pas que, évidemment. Son prédécesseur, Gérald Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur, lui, faisait sa rentrée politique dans son fief, à Tourcoing, devant 500 personnes, dont de nombreuses personnalités politiques comme Gabriel Attal, Édouard Philippe ou encore Sébastien Lecornu. Il a lancé son mouvement, son nom, Populaire. Il veut écrire l'avenir et le récit social du Bloc central. Écoutez.
Personne ne peut accepter le naufrage démocratique d'une France populaire qui se jette dans les bras de la démagogie communautaire des extrêmes, qui nous divise, laissant le petit blanc voter pour Le Pen et le petit beurre voter pour Gaza.
Au cours de ce discours, Gérald Darmanin a annoncé soutenir le gouvernement Barnier tout en le mettant en garde concernant les hausses d'impôts.
Je sais que nous serons aussi nombreux à ne pas pouvoir soutenir un gouvernement qui augmenterait les impôts. J'entends qu'il ne concernerait ces hausses d'impôts que les plus aisés d'entre nous. Mais l'argent des plus aisés doit aller dans la création d'emplois, pas dans les caisses publiques. Et attention, quand on commence par augmenter les impôts de quelques-uns, on finit, mes chers amis, par augmenter les impôts de tous.
Gérald Darmanin présente son mouvement populaire comme un nouveau lieu de réflexion que tout le monde peut rejoindre pour prendre le temps de penser à l'avenir.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Attendez-vous des annonces importantes concernant la Nouvelle-Calédonie dans la déclaration de politique générale du Premier ministre? Si vous attendez des annonces, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Et on termine à direction l'Allemagne où un migrant syrien a fait plus de 30 blessés, dont 8 enfants grièvement. Certains voient leur pronostic vital engagé. Il était armé d'une machette et a incendié plusieurs habitations. Geoffrey Branger pour Europe 1.
Eh bien, vers 17h hier, l'auteur présumé des faits incendie le rez-de-chaussée d'un premier immeuble, bloquant la fuite des occupants des étages supérieurs. Seamus habite à côté. Il est l'un des premiers à intervenir.
Avec un collègue, nous avons pris nos échelles et sommes montés. On a évacué un premier enfant, puis un deuxième. Nous en avons sauvé 3 en tout.
Quelques rues plus loin, le suspect met le feu à une autre maison. Une trentaine de personnes sont donc blessées dans ces deux incendies. 8 enfants sont donc toujours dans un état grave. Ensuite, au volant de sa camionnette, il percute un magasin à plusieurs reprises. Sur des vidéos de témoins, on le voit armé d'une machette. Quelques minutes plus tard, des habitants du quartier l'encerclent et le bloquent pendant de longues minutes jusqu'à l'arrivée des policiers qui finissent par le maîtriser et l'arrêter.
Même si dans un premier temps, certains ont vu là une attaque terroriste, il s'agirait plutôt d'un drame familial, comme l'explique la responsable de la police locale. Il n'aurait tout simplement pas supporté que sa femme le quitte.
Après la séparation, il est sorti armé de couteaux et d'accélérateurs de feu pour s'en prendre à des logements et des magasins qui auraient soutenu sa femme.
Et l'avocat donc plaide la maladie mentale. Il est 11h52, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. On s'intéressera notamment à la semaine bleue puisque les seniors sont à l'honneur cette semaine.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Les journées rallongent et les manches de vos vêtements raccourcissent. Et oui, bonne nouvelle, les beaux jours sont de retour chez Gémeaux. Et avec eux, la nouvelle collection Gémeaux jusqu'au 13 octobre. Venez découvrir des tenues légères aux couleurs éclatantes et aux coupes parfaites pour toute la famille. Alors fini les pulls et les doudounes. Place aux t-shirts, débardeurs, chemises, shorts, bermudas, robes.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag, on retrouve Nicolas Legrand.
Et visiblement, les Australiens sont toujours frileux à l'idée de revenir sur le territoire en croisière. En tout cas, à Sydney, une importante agence de voyage a décidé d'annuler sa croisière qui devait venir en Nouvelle-Calédonie début novembre. Et certains clients semblent mécontents. C'est la correspondance ce midi de Jean-Pierre Zajac.
Le Carnival Luminosa de la compagnie Carnival Cruise Line devait effectuer une croisière en Nouvelle-Calédonie du 30 octobre au 7 novembre et y faire escale dans 3 ports. En raison des troubles qui y persistent, la compagnie vient toutefois d'annuler ce voyage dans le Pacifique Sud qui sera remplacé par une escale à Brisbane et une virée autour de Willis Island, une île inhabitée située à 450 km à l'est de Cairns qui abrite une station météo automatique. Les passagers de la dite croisière, dont certains avaient dépensé près de 450 000 de nos francs pour admirer les splendeurs de la Nouvelle-Calédonie, ont été avisés qu'ils ne seront pas remboursés par Carnival Cruise qui, en guise de compensation, leur a offert un crédit de $50, soit un peu moins de 3700 francs, qu'ils devront dépenser à bord du paquebot, ce que certains croisiéristes n'ont pas du tout apprécié. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Dans le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, la Semaine Bleue, qui est une action nationale pour le bien-être de nos seniors, est relayée, même si évidemment le programme est un petit peu bouleversé cette année. Il y a tout de même des ateliers gratuits qui sont organisés par le CCAS de Dimbéa tout au long de la semaine. L'objectif est de tisser des liens, de partager les savoir-faire pour lutter notamment contre l'isolement des personnes âgées. Écoutez Sylvia Consati, elle est la directrice adjointe du CCAS de Dimbéa.
Traditionnellement, nous tenons nos activités au sein du CCAS et au Studio 56. Malheureusement, le Studio 56 a été complètement dégradé. Au début, on ne savait pas trop si on allait pouvoir organiser les actions pour la Semaine Bleue. Et puis au final, on s'est dit, on en fait quand même quelques-unes. On les adapte forcément parce que les budgets sont aussi différents, il ne faut pas oublier. Et puis on décentralise aussi et on porte des actions en plus petits groupes dans le cadre de l'isolement, de la lutte contre l'isolement et puis aussi permettre de pouvoir se libérer et libérer la parole. Nous avons organisé de la sophrologie. Nous avons organisé également un atelier qui s'appelle « Temps de parole » avec une psychologue. Où là, les seniors pourront se libérer et parler de leurs peurs, notamment.
Et ce matin, deux ateliers étaient donc au programme. Michel et Marie-Clémence ont participé aux ateliers de sophrologie et de gym douce.
Depuis le 13 mai, pour moi, on s'est beaucoup entraidés. Parce qu'on a vu que les gens étaient beaucoup dans la détresse, dans la peur. Et aujourd'hui, c'est un moment de retrouvailles. Et là, on partage les moments qu'on a connus, des moments difficiles, bien sûr. Mais il y a eu des bons moments aussi. Et là, on a un super programme cette année dans la sophrologie. Moi, c'est la première fois que j'en fais ici à la résidence. Et là, tout le monde est reparti détendu et c'est super.
De gym douce, oui. Tout le corps, non, bien. C'était relaxant aussi. Puis c'est des mouvements qu'on ne fait pas tout le temps. Quoi. Ça m'a fait du bien parce que j'ai toujours mal à l'épaule gauche. C'était très bien.
Et après le corps, l'esprit, cet après-midi, c'est l'atelier Temps de parole qui sera proposé de 14h à 15h. Les inscriptions sont à faire auprès du CCAS de Dimbéa directement. Il y aura des ateliers jusqu'au 4 octobre. On passe de la Semaine Bleue à Octobre Rose puisque demain rimera avec le lancement de cette opération pour lutter contre le cancer du sein. Parmi les rendez-vous phares, la Nouméenne, la marche populaire qui rassemble chaque année des milliers de participantes. Étant donné le contexte, ce rassemblement ne se déroule pas en octobre, mais bien à la fin du mois de novembre. Écoutez Jade Tillier, elle est chargée de communication à l'OPT.
L'OPT est pour la cinquième année consécutive sponsor titre de cet événement qui est organisé depuis 2005 par la SPTT, son association sportive. En effet, au regard des difficultés qu'a connues la Nouvelle-Calédonie récemment, nous avons été contraints de décaler un petit peu l'événement dans l'année. Le but était bien sûr de ne pas l'annuler. Parce que ça représente un budget très important pour la Ligue contre le cancer. Donc voilà, nous sommes contents de pouvoir proposer à nouveau cet événement solidaire cette année. Donc la Nouméenne OPT aura lieu en baie de Sainte-Marie le 24 novembre prochain. L'objectif est de réunir cette année 5000 participantes. Nous étions l'an dernier 4837, donc nous espérons que cette année, plus que jamais, les Calédoniennes répondront à notre appel. Au niveau des infos pratiques, c'est comme d'habitude, rendez-vous en baie de Sainte-Marie à 8h. Et ensuite, laissez-vous guider par les animations. Il y aura des échauffements, de la Zumba. Ensuite, la marche non chronométrée, comme d'habitude, des étirements. Et puis, surtout très important, la SSNC fera une démonstration sur scène des gestes d'autopalpation pour la prévention contre le cancer du sein. Puis, comme d'habitude, il y aura le tirage au sort habituel avec des très jolis lots qui seront offerts par nos partenaires. Donc, on sera très contents de pouvoir les remettre à nos participants.
Et on en reparlera évidemment sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Le code couleur cette année, ce sera le violet. Les inscriptions pour la Nouméenne 2024, ce sera donc le 24 novembre prochain, eh bien, sont déjà possibles sur le site internet inlive.nc. Autre rendez-vous, la 14e édition du festival Sublimage se tiendra dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Nouméa cette année. Une manifestation qui débutera ce soir par le vernissage de l'exposition. Toutes les animations débuteront donc demain à 9h pour les visiteurs et se tiendront ensuite jusqu'au 6 octobre. L'occasion de découvrir les photos et les films des participants et de profiter d'expositions et d'animations. Les visiteurs pourront ainsi se plonger au cœur de l'océan et découvrir les merveilles cachées des fonds marins. Les explications de Florine Boudin, présidente de l'association Sublimage.
Cette édition, elle a dû être un petit peu adaptée suite au contexte un peu calédonien. Donc, on a décidé de faire une exposition. Donc, ça, c'est ce qu'on faisait habituellement. Mais cette fois-ci, tout ce qui tournera autour, c'est-à-dire les animations et les projections, seront également à la mairie et des conférences. Donc, chaque jour, il y aura une conférence suivie d'un film entre 40 minutes et une heure. Et au milieu de l'exposition seront aussi présents des stands soit associatifs, soit des artistes. Et nous aurons aussi un stand du parc de la mer de Corail. Le festival Tube Image sont toujours en fait l'aboutissement d'un concours photo et vidéo international. Donc on reçoit des images du monde entier, des films du monde entier. Le but du festival, comme chaque année, c'est de faire voyager les Calédoniens.
Un vernissage donc ce soir, rendez-vous pour les visiteurs à partir de demain 9h jusqu'au 6 octobre dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Nouméa pour cette 14e édition du festival Sublimage. Et puis encore un heureux gagnant sur Radio Rythme Bleu grâce à notre jeu SMS. Franck de Nouméa a remporté ce matin 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où il veut et quand il veut dans les enseignes de son choix. Vous le savez, il n'y a pas de liste préétablie. Vous pouvez donner le nom du magasin et ensuite, eh bien, on s'arrange pour être le prochain gagnant. Eh bien, vous envoyez dès maintenant RRB au 4020, RRB au 4020. Et je vous rappelle que tous les SMS envoyés sont remis en jeu également pour le tirage du million, puisqu'il y a 1 million de francs de bons d'achat à gagner en envoyant RRB au 4020. Voilà, félicitations à Franck.